I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu internet, gadget et c'est quoi le troisième ? Technologie ! C'est dans le nom, c'est la technologie, je suis Patrick Béja. Aujourd'hui on a un programme intéressant, on va vous décortiquer la conférence Apple, on va pas vous saouler avec, je vous garantis, on va prendre que les parties intéressantes et il y en avait quelques-unes quand même. On va également parler des annonces de Facebook et de la conférence Facebook Connect dans le domaine de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On va également dire un petit mot sur TikTok en deuxième partie d'émission. Et là, ça sera vraiment un mot express parce que c'est, en gros, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, on va vous résumer tout ça aussi. Et puis, plein d'autres petites news et rumeurs qu'on va vous retransmettre également. Je suis Patrick Béja. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, comme tous les mois, Gaël. Comment ça va, Gaël ?
Salut Patrick, bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Et toi ?
Écoute, je suis en forme, un peu stressé par cet épisode qui a beaucoup de matière qu'il va falloir effeuiller, mais à part ça, tout va bien. Et puis en plus, on est en live sur Twitch pour ce test. J'avais fait un test pour le rendez-vous jeu la semaine dernière, et là, on fait un test de stream avec le rendez-vous tech, et je me rends compte que, en fait, c'est pas hier que je suis allé chez le coiffeur, mais demain. Donc ma coiffure est totalement inacceptable. Mais bon, on va avancer quand même. L'important, c'est la voix et l'essentiel des gens écouteront l'émission en audio de toute façon. Donc, soyez gentils dans la chatroom. Ne trollez pas trop. D'autant plus qu'on a un autre invité et que c'est sa première fois, donc il faut être gentil. C'est Jérôme Marin qui nous rejoint depuis Paris également. Jérôme Marin, ancien journaliste du Monde basé à San Francisco pendant de nombreuses années. Comment ça va, Jérôme ?
Ça va très bien, merci.
T'es en forme ?
Ça va. Content d'être là.
Très bien. Bah écoute, on est content de t'avoir. Surtout, comme je le disais, parce qu'on a beaucoup de matière et on va se lancer juste après ces petits remerciements aux personnes qui nous permettent de faire cette émission, notamment aujourd'hui, Timo from Paris, Olivier, Julien Molis, Kataï, Patrick Lemay, Jean-Julien Grandjean, Guy Fiane, Dr. Phil Good, G.J. Toledano et Guillaume Père. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, on en redira un tout petit mot dans un instant, mais mon cœur, vous voyez, il grossit à chaque fois que je pense à vous et je suis infiniment reconnaissant de votre soutien. Donc merci à vous tous et plein de bisous en live en plus, voilà, c'est magnifique. Alors, premier gros sujet de l'émission, c'est la conférence Apple. Excuse-moi, je fais beaucoup de références au live, mais je me rends compte que les gens vont réaliser à quel point je parle avec les mains, même quand je suis tout seul devant mon micro. Ça me traumatise. Conférence Apple. Alors, il n'y avait pas d'iPhone, comme on s'en doutait. Ils ont parlé d'Apple Watch, d'iPad. Et surtout, la chose qui m'a paru le plus intéressant, c'est les services qui sont associés ou non à ces appareils. Alors, on pourrait parler du matériel. Comme je le disais, moi, ça ne me paraît pas être la chose la plus intéressante. Je vais les passer en revue très, très rapidement. Une nouvelle Apple Watch Series 6, donc la sixième version, qui inclut un capteur, un capteur qui détecte le niveau d'oxygène dans le sang, donc des applications de santé, c'est la grosse nouveauté. Un écran un petit peu plus lumineux également, et la Watch SE qui est un petit peu moins chère et un petit peu moins capable. La Series S commence à 400€, la SE commence à autour de 300. C'est un processeur qui est un petit peu moins puissant, mais qui est quand même assez puissant, c'est celui de l'année dernière. Par contre, elle n'a pas tous les capteurs de santé, c'est-à-dire le capteur d'oxygène, bien sûr, et l'électrocardiogramme. Donc, elle a les fonctions un petit peu plus basiques. Elle a quand même le gyroscope, le compas, l'altimètre, l'accéléromètre, etc. Donc, elle peut détecter les chutes. C'est important pour ce qui vient juste après. Mais ils ont également annoncé l'iPad Air, qui est l'iPad Air et un nouvel iPad de base. Là encore, l'iPad de base, amélioration de l'iPad classique pour un tarif qui est un tarif de milieu de gamme pour les tablettes autour de 450-500 €. Et l'iPad Air qui est un petit peu plus cher, qui vient manger un petit peu sur le territoire de l'iPad Pro. Mais ça, ça pourrait être un débat d'experts qu'on n'aura, je pense, pas ici. En gros, il est un petit peu plus léger, un petit peu moins capable, mais il fait quand même beaucoup de choses que fait l'iPad Pro. Une chose à noter quand même sur cet iPad Air, c'est qu'il a un capteur d'empreinte digitale sur le bouton Power. Donc, c'est peut-être le début d'une tendance ou peut-être qu'ils pourront l'utiliser ailleurs, un capteur d'empreinte digitale, donc un Touch ID sur le bouton Power au lieu de le mettre sur l'écran, ce qui permet de réduire la taille de l'écran sans avoir la petite encoche pour le Face ID. Bien sûr, ça enlève des capacités comme le LiDAR qui est sur l'iPad Pro, mais c'est quand même quelque chose qui est important à noter puisqu'il pourrait être réutilisé ensuite ailleurs. Le truc qui, moi, m'a le plus marqué, il y a deux choses, en fait. D'une part, le nouveau service Fitness Plus, qui est un service d'entraînement, de santé, d'exercice, qui est disponible uniquement aux États-Unis en ce moment, et le service Apple One, qui regroupe tous les services de la société, ou une bonne partie des services de la société. Il y a une version en individuel qui est disponible en France, Apple One, c'est à 15 €. Il y a également une version familiale qui permet d'inclure tous les membres de sa famille, jusqu'à 6 personnes, qui est à 20 €. Donc c'est intéressant, bien sûr, si on est plus d'un. Et il y a aux États-Unis une version premium qui inclut également le fitness et le Apple News. Ces deux services ne sont pas dispo en France et pas dispo en France pendant un moment. Donc, les seuls services qui sont dispo en France, c'est Apple Music, TV+, et Apple Arcade, et le stockage iCloud. Pour la version individuelle à 15 €, on a 50 Go de stockage. Pour la version famille, on a 200 Go de stockage. C'est la chose qu'on attendait pour Apple, l'orientation vers les services et puis un service qui vous permet de vous enfermer chez eux, parce que comme on a plein de trucs qui sont chez eux, c'est un peu la politique d'Amazon avec Amazon Prime, et ça devient difficile de partir quand on a un service qui nous plaît plus vu que tous les autres sont chez eux. On se dit bon, bah on va rester là quand même. Le prix est relativement intéressant, mais entre, si vous voulez parler bien sûr des montres ou des iPads ou de ces services, n'hésitez pas. Je vais peut-être faire l'honneur à l'invité. Jérôme, toi de ton côté, qu'est-ce que tu as noté de cette conférence? Qu'est-ce qui t'a paru le plus intéressant?
Je suis comme toi, je pense que les services, l'Apple One, c'est vraiment la chose la plus importante. Ça fait longtemps qu'on parle de ce bundle de services. On sait que Tim Cook à réorienter l'entreprise vers les services. C'est vraiment le prochain relais de croissance de l'entreprise avec les ventes d'iPhone, les ventes d'iPad, les ventes d'Apple Watch et de Mac qui sont plutôt stables, voire même qui parfois régressent. Donc les services, c'est très, très important pour eux. Le bundle, c'est intéressant pour le consommateur, peut économiser un peu d'argent. Ce qui est vraiment intéressant pour Apple, c'est de doper les services, donc TV+, ou Arcade, qui sont des services qui ne marchent pas forcément aussi bien que les autres. Hein. Donc là, aujourd'hui, on se dit, si on est abonné à Music, donc on paye 10 € par mois, je rajoute 5 €, 6 € et je peux avoir Arcade et TV+, gratuit, enfin pour moins cher. Donc, on essaie vraiment de gagner un peu plus d'euros sur chaque abonné. Ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. En fait, on perd sur l'abonnement individuel, mais on va gagner avec plus de volume. Et l'idée, vraiment, c'est de dire... par exemple, si Apple veut pousser encore plus Music face à Spotify, voilà, là on peut dire venez, prenez Apple Music au lieu de prendre Spotify, parce que vous mettez 3 € ou 4 € de plus, vous aurez du stockage, vous aurez la télé, vous aurez des jeux vidéo. Donc, et on voit d'ailleurs Spotify immédiatement après la conférence, je ne sais pas si vous avez vu, mais a fait un communiqué en disant voilà, c'est encore un nouvel exemple des pratiques anticoncurrentielles d'Apple, il faut intervenir.
C'est un truc qui est hyper notable, effectivement. C'est cet aspect anticoncurrentiel d'Apple qui est sur le devant de la scène avec tous les autres GAFA, mais Apple en particulier avec leur main mise sur leur propre App Store, dont on a débattu longtemps. Et t'as raison, Spotify n'a pas perdu de temps. Le bundle fait que c'est un bundle Apple avec des services Apple qui fait que c'est plus difficile d'entrer en concurrence avec eux. Et c'est le cas aussi pour le service de fitness. Fitness Plus, pour le coup, il y a plein d'apps. Fitness Plus est assez large. Hein. Il inclut évidemment des exercices. C'est très bien fait parce que ça prend en compte tout l'écosystème, la galaxie d'Apple. On peut regarder les vidéos sur son iPhone, sur son iPad, sur son Apple TV. Ça coordonne avec la Watch pour traquer votre exercice. Ça vous donne des rapports et ça couvre, donc c'est en vidéo avec des nouvelles vidéos d'exercices toutes les semaines. Et en plus de ça, c'est des coachs très connus. Moi, je ne les connais pas parce que je ne fais pas beaucoup d'exercices, mais aux États-Unis, c'est des coachs connus. J'imagine qu'ils prendront des gens dont le nom évoque quelque chose en Europe aussi quand ils lanceront le service. Et puis, ça couvre beaucoup de choses. Ça peut couvrir des exercices très simples, limite. Pour des gens qui débutent, ça couvre des choses comme le yoga. Moi, je fais du yoga avec une app de temps en temps, régulièrement d'ailleurs depuis quelques temps, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Down Dog, si ça vous intéresse. Mais là, ce genre de choses, c'est aussi, ça rentre aussi dans le cadre de cette question je perds mes mots, de monopole. Parce que toutes ces apps, tout à coup, se retrouvent intégrées au service Apple et les concurrents vont avoir beaucoup plus de mal. Toi, mais ceci dit, le service, si on pense aux consommateurs, le service est intéressant et le service fitness aussi. Moi je pense l'essayer et peut-être l'adopter quand il arrivera en France. Gaël, je suis curieux, est-ce que toi, c'est un truc qui t'attire, l'Apple One dans son ensemble et peut-être même le service de fitness ?
Alors, je vais t'avouer un truc. Sur le moment, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Apple One, effectivement, monopole, anti-concurrence, scandaleux. Et je regarde le détail et je m'aperçois qu'en fait, bah, j'ai déjà Apple Music, j'ai déjà Apple Arcade, j'ai déjà Apple TV. Je fais ah oui, en fait, c'est peut-être intéressant.
C'est ça. Sur la théorie, on se dit non, mais impossible. Et puis en fait, c'est ah mais c'est ça le truc.
J'avoue.
C'est que. Il est intéressant pour les consommateurs d'Apple, pour les clients d'Apple, mais ça pousse les autres dehors, quoi.
C'est ça, effectivement. Donc sur la théorie, effectivement, je me dis que c'est anti-concurrentiel. Après, dans ma vraie vie, en tout cas, effectivement, bah, je vais pas y couper. Après, Fitness Plus, je sais pas. J'avoue que Fitness Plus, même si effectivement j'ai déjà une watch et je fais pas mal de sport, je crois que j'en ai un petit peu marre quand même qu'elle me dise quand est-ce qu'il faut respirer ou me lever. Donc je sais pas si Fitness Plus va encore me dire allez, cours un peu plus.
Ça va vite te saouler. Je comprends.
Ouais, c'est ça.
Après, y a un autre aspect qui est très intéressant à ces questions de watch. C'est le, comment il l'appelle, le Family Setup.
C'est un service... Ça, c'est ce que j'ai noté, ouais.
Oui, ouais, je vais le décrire bien. Très rapidement. C'est un service qui vous permet, enfin une fonction, qui vous permet d'avoir un iPhone. Et avec cet iPhone, vous allez pouvoir paramétrer et mettre en place plusieurs montres. Et parmi ces plusieurs montres, il y en a qui n'auront... Donc, ces montres n'auront pas besoin d'être connectées à un iPhone individuellement. Donc, si vous voulez donner une montre à un enfant, si vous voulez donner une montre à une personne âgée ou une personne dépendante pour l'utiliser comme détecteur de santé, on va dire, si c'est une montre qui peut le faire, ou même la montre un petit peu moins chère qui va détecter les chutes, c'est ce que je disais tout à l'heure... Eh ben, vous faites office d'ingénieur IT et vous mettez tout ça en place. Et c'est pas si facile que ça à mettre en place. Hein. Moi, j'ai mis en place la mienne avec l'option de surveillance du sommeil il y a quelques jours avec WatchOS 7. C'est quand même un petit peu compliqué, mais une fois que c'est fait, bah, la personne en question peut avoir accès aux fonctions basiques de la montre sans avoir besoin de téléphone et sans avoir les fonctionnalités du téléphone. Je pense à des enfants, notamment. C'est là que j'imagine ça t'a particulièrement frappé, Gaëlle.
Alors au début c'était pour les enfants, effectivement je me suis dit tiens, Family Setup ça va être intéressant pour les enfants. Après, la problématique ça reste que c'est une montre à 400 dollars. Bon, faut avoir envie de filer une montre à 400 dollars à un gamin.
Après, c'est sûr, La version SE coûte, alors je vais regarder, je vais vérifier 300. Le prix 300. En France.
300. Voilà.
Donc oui, bon, c'est effectivement...
Reste,
Ce que je me dis, c'est que...
C'est un montant important pour un gamin. Mais
évidemment,
après,
mais
voilà.
C'est, je crois que la question se pose quand tu dis, est-ce qu'il lui faut un téléphone ou pas ? Et il lui faut quelque chose pour être connecté, ou il lui faut, ou j'aimerais bien qu'il ou elle ait quelque chose pour être connecté, mais je n'ai pas envie qu'il ou elle ait un téléphone. C'est dans ce contexte que je me dis que ça pourrait correspondre, non ?
Alors, si je peux me permettre, on sait que quand ils passent au collège, quand ils ont environ 10 ans, ils ont 99% ont un téléphone et tu peux pas leur enlever un téléphone parce que ça fait partie de la société aujourd'hui.
Dès 10 ans.
Pour s'intégrer, ils ont besoin du téléphone. Oui, c'est 10 ans. Maintenant, on s'est passé à 10 ans.
Pour les téléphones, tu veux dire ou...
Ouais, pour les téléphones.
D'accord. Mais ouais, donc
en
peut-être
de 10
que
ans,
pour les...
du coup, finalement, la montre, elle s'adresse en dessous de 10 ans. Donc, est-ce que tu as envie et une montre à 300 ou 400 dollars à un enfant de moins de 10 ans. Bon, chacun son...
Si je peux me permettre, je pense qu'il y a, un autre usage. Aujourd'hui, on sait que, globalement, si les adolescents n'ont pas forcément des iPhones, ils ont peut-être un Android. Ils ont déjà un téléphone, mais un Android qui est moins cher. Les parents qui ont une ancienne Watch peuvent très bien leur donner à leurs enfants. Donc, c'est un moyen pour Apple de commencer à faire rentrer les adolescents ou les jeunes adolescents dans leur écosystème aussi.
Non, c'est un très bon point, exactement. Mais c'est là où moi, après, j'ai vu la montre plutôt comme un objet, finalement, pour un usage pour les personnes âgées. Je ne sais pas si vous avez des personnes âgées autour de vous qui ne veulent absolument pas de téléphone. Moi, j'en ai pas mal. Et on sait qu'on aimerait bien quand même pouvoir les monitorer à distance parce qu'il y a des problématiques de santé, etc. Et effectivement, je trouve que c'est un bon moyen pour pouvoir les appeler, savoir que tout va bien. Et là, je trouve que c'est un outil super intéressant.
J'avais pas du tout pensé à ça, mais effectivement, oui, les personnes âgées, évident, mais le fait de refiler l'ancienne montre, mais complètement, quand tu as ta montre qui a 2-3 ans, ça te pousse à en acheter une nouvelle peut-être également. Donc, il y a peut-être des critiques à faire à ce niveau-là, mais quoi faire de son ancienne montre ? Tu la refiles à quelqu'un, peut-être même à un enfant de moins de 10 ans, ou à une personne âgée également, et là, tu es un petit peu tranquille. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une montre sans téléphone ? Alors, il faut noter quand même, quand on dit son ancienne montre, il faut que ça soit une montre qui a une carte SIM virtuelle. Donc, ce n'est pas tous les modèles qui peuvent avoir accès à ça. C'est uniquement les modèles avec carte SIM, ce qui fait d'ailleurs qu'elle n'est pas disponible dans tous les pays. Moi, en Finlande, par exemple, j'y ai pas droit. En France, vous avez les montres avec carte SIM, mais si vous avez une carte SIM... Et du coup, vous pouvez appeler la personne en question, envoyer des messages, jouer avec les Mimoji. Vous pouvez également localiser la personne en question. Si vous avez un petit peu peur ou si vous ne savez pas où est votre enfant, etc. Moi, je me souviens que quand j'avais 12 ans, j'allais à l'école tout seul. Aujourd'hui, je serais terrifié d'avoir mon enfant de 12 ans qui va à l'école tout seul. Si j'ai une montre dessus, c'est un petit tag, je peux le surveiller à distance. C'est Big Brother, mais version plus douce, je dirais. Mais ouais, je crois que c'est cohérent pour étendre l'influence d'Apple, effectivement, dans toute la famille, quoi. Écoutez, c'est les choses les plus importantes dont je voulais parler sur les annonces d'Apple. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on a oubliés peut-être qui valaient le coup d'être mentionnés ? On pousse toujours l'Apple Watch vers plus de santé, ça on s'en doute bien. Il y avait tout un paragraphe sur le fait qu'ils sont de plus en plus verts dans leur consommation d'énergie. Et il y a un certain nombre de sociétés des GAFA qui ont annoncé qu'ils seraient 100% carbone neutre entre 2030, 2035, quelque chose comme ça. Alors, on peut accuser certains de greenwashing. Moi, je crois que là, pour le coup, beaucoup d'entre eux, parfois en payant des compensations de consommation de carbone, alors ce n'est pas 100% vert, mais d'ici 2030-2035, Google l'a annoncé, Apple l'a annoncé, Microsoft en a parlé aussi, 2030-2035-2040, ils veulent tous être entièrement carbone neutre, voire carbone free. C'est quand même, je crois, une bonne chose. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. La réalisation de la conférence était assez folle. J'ai vu certains se moquer de la conférence. Moi, j'ai trouvé très, très bien faite avec des images de drones qui passaient à travers les immeubles, à travers les vitres, pour un truc qui est fait juste une conférence tech. J'ai trouvé ça assez fou. Ça m'avait bien plu. Mais voilà, peut-être une dernière chose, et n'hésitez pas à m'interrompre également si vous le souhaitez. Cet abonnement Apple One va pousser aussi les chiffres de l'Apple TV. L'Apple TV va être porté par l'abonnement Apple One, et, enfin Apple TV+, j'entends bien sûr leur abonnement, étant donné qu'il y avait assez ce cadeau d'un an d'abonnement à l'Apple TV+ l'année dernière, et ben maintenant, l'abonnement Apple One va porter le truc, encore une fois, de la même manière que certains services Amazon ont été portés par Amazon Prime, et ça va permettre d'annoncer des chiffres qui sont pas ridicules, quoi, parce que l'Apple TV+, c'est pas encore ça, même aujourd'hui.
On n'a jamais annoncé de chiffre, de toute façon, d'Apple TV+.
On est, pardon ?
On n'a jamais annoncé de chiffres.
Tout à fait, oui.
C'est vrai, mais c'est là où ça pose le problème de la concurrence, si, parce qu'on peut très bien dire, voilà, c'est de la vente à perte, à la limite. Apple TV+, ça devrait coûter tant, là, on le donne à deux fois moins cher parce qu'on le met dans un bundle, et c'est là où le problème de concurrence peut être défendu, peut se poser. Il y a une chose qui est intéressante qu'on n'a pas fait Apple et que certains auraient espéré, c'est de faire un bundle avec un iPhone. C'est-à-dire, voilà, vous payez peut-être $50 ou $60 par mois, vous avez un iPhone sur 24 mois, plus vos abonnements, nos services. Alors là, ça aurait posé des problèmes encore plus importants au niveau de la concurrence. Ils ne sont pas allés jusque-là encore, mais moi, je pense que c'est vraiment peut-être une des pistes qui sera explorée pour relancer un peu les ventes d'iPhone aussi, avoir un bundle avec tout compris.
Le début du leasing du téléphone, c'est pas mal.
Ça existe déjà, encore un peu, déjà.
Bah, ça existe, oui, chez les opérateurs. On a effectivement des opérations de ce genre depuis très longtemps. Mais avec l'abonnement, j'imagine que ça, c'est pas très loin. Ça va arriver, ou au moins on t'offre quelques mois d'abonnement. C'est quelque chose qui risque d'arriver, oui.
On aurait pu penser, parce qu'ils offrent Fitness Plus, par exemple, il y a 3 mois qui est offert avec un achat d'Apple Watch. Apple One, il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas d'abonnement, enfin, de mois offert quand on achète un nouvel iPhone. Mmh. Ça aussi, ça aurait posé des gros problèmes, par exemple, pour Spotify. Alors, si on dit...
Ah oui.
Tous les gens qui achètent un iPhone, on leur donne Apple Music gratuitement.
Mais ça, il y a un je ne sais plus si c'est 7 jours ou un mois gratuit d'Apple Music, comme pour l'Apple Arcade, comme pour l'Apple TV+. Ils ont toujours un mois d'abonnement gratuit. Mais oui, l'abonnement dans son ensemble, le Apple One, mais je pense que ça va arriver. Hein. Je pense que ça va arriver, moi. Mais bon.
Peut-être pas partout en Europe, ça sera difficile, je pense.
Bah, déjà, j'aimerais bien voir arriver le Fitness Plus et le News, peut-être un peu moins, mais le Fitness Plus en Europe et en France, moi, ça me plairait bien.
Bon, moi, je fais juste un dernier aparté sur on n'en a pas parlé, mais l'iOS 14 et les fonctionnalités de vie privée que je trouve intéressant. Ils vont encore un petit peu plus loin, pas encore totalement, mais ils sortent des fonctionnalités supplémentaires sur ta vie privée, sur les notifications de ce que les applis prennent sur toi, le contrôle des photos, de la localisation, etc. Et je trouve ça intéressant qu'ils continuent à axer ça de ce côté-là.
Alors, c'est vrai que iOS 14 et tous les OS équivalents ont été lancé un petit peu rapidement. Ils ont dit, bon, bah, c'est dispo demain. Donc, il y a des développeurs qui ont paniqué. Et du coup, ça a été... c'est rendu disponible. Et c'est vrai qu'il y a plein de fonctionnalités. Les apps te demandent ton accord pour tout le temps. Ça te signale également un truc que j'avais raté. C'est que quand on a le micro ou la caméra qui sont utilisées, il y a un petit voyant qui s'affiche en haut de l'appareil, en haut de l'écran, en permanence. C'est-à-dire qu'on sait à tout moment si la caméra ou le micro sont utilisés, en plus du fait de pouvoir limiter l'accès aux photos. On peut dire vous donnez accès à une photo, vous donnez accès à toutes les photos, aux différentes apps. Et puis, bien sûr, ces histoires de limitation d'identifiant unique pour la publicité, qu'ils ont un petit peu décalé d'ailleurs, ça arrivera un petit peu plus tard, parce que l'univers de la publicité s'en est beaucoup plein pour mettre les choses en place. Et c'est vrai que ça va un petit peu loin. On en avait parlé il y a quelques semaines de ça. Mais oui, c'est sûr que c'est une composante toujours plus importante de chez Apple de vous offrir cette possibilité d'avoir un plus grand contrôle sur vos données. Bon, bah écoutez, voilà pour la partie Apple. On va parler un petit peu de Facebook avec son Facebook Connect où ils ont annoncé, là encore, j'ai trouvé que le matériel n'était pas forcément la chose la plus intéressante qu'ils avaient annoncée. Ils ont parlé de leur nouvel appareil, leur nouveau casque de réalité virtuelle, l'Oculus Quest 2, qui remplace les appareils connectés. C'est-à-dire que désormais, il ne sera plus possible d'acheter des casques de réalité virtuelle de chez Facebook, donc de chez Oculus, des appareils connectés. C'est uniquement des appareils autonomes qu'on peut connecter si on le souhaite. Donc, c'est l'Oculus Connect, l'Oculus Quest 2. Mais le plus intéressant pour moi, c'était... à vrai dire, il y a deux choses. Il y a un truc marrant, c'est le Infinite Office, qui est une sorte de... d'écosystème système d'exploitation pour de la bureautique en virtuel, qui pour moi est tellement ambitieux que c'est presque trop ambitieux. C'est avoir une sorte d'immense bureau en visuel dans notre environnement virtuel dans lequel on va pouvoir travailler. Mais alors, travailler sur quel document ? Est-ce que c'est compatible avec ce qu'on a par ailleurs ? Est-ce que ça va être pratique avec... Il y a même un clavier physique qui est modélisé dans l'univers virtuel pour pouvoir taper dessus sans enlever son casque. Enfin, c'est assez bien pensé, mais ça me paraît très ambitieux. Et puis, il y a tout un projet de recherche sur la réalité augmentée qui, là, est carrément l'étape au-dessus. Ils ont le projet qui s'appelle projet ARIA, qui est un projet de recherche des lunettes qui intègre un certain nombre de caméras, de capteurs, qui est vraiment un projet de recherche. Hein. Ce n'est pas un truc qui est prévu pour les consommateurs, donc c'est pour eux leur permettre de développer ce type d'utilisation. Mais j'ai regardé une longue session sur ce sujet. D'ailleurs, c'est marrant, j'étais arrivé à la présentation live un petit peu en retard et il parlait de ce projet. C'était le chercheur qui faisait un truc super en détail sur le sujet. Je me dis, ah, mais quand même, pour une présentation grand public, c'est hyper long, c'est hyper fastidieux, c'est bon, arrêtez-vous. Et je me suis rendu compte après, en fait, que c'était la conférence d'après qui, justement, devait détailler ça dans toutes les largeurs. Bref, c'était hyper intéressant. Ils ont détaillé la manière dont ils doivent déterminer techniquement là où vous regardez, là où vous êtes, les différentes couches virtuelles de votre position dans l'espace sur Terre, la position des objets virtuels qui doivent être ancrés à la Terre, l'identification des objets, leur forme, la manière dont vous pouvez les calquer sur votre environnement, ce qu'on peut faire avec. Ça m'a un petit peu convaincu que la réalité augmentée a un potentiel encore plus grand que la réalité virtuelle. Mais bon, ça, c'était l'une des composantes de la conférence. La réalité augmentée d'une part, donc le casque Oculus Quest 2, et puis cet espace de travail, l'Infinite Office. Il y avait d'autres annonces, hein, notamment dans le jeu vidéo, mais c'est celles qui m'ont marqué. Je reviens vers Jérôme. Est-ce qu'il y a une chose, toi, qui t'as côtoyé, j'imagine, beaucoup de startups avec beaucoup de flancs et de promesses non tenues. Est-ce que dans tout ça, il y a des choses qui éveillent ton sixième sens de bullshit, ou est-ce que tu y crois?
Alors sur l'office, j'y crois moyen, hein, très honnêtement. J'ai pu déjà essayer, c'était avec HoloLens de Microsoft. J'avais pu essayer et c'est vrai que ça fait vraiment gadget en fait. C'est beau sur des vidéos, c'est intéressant, ça fait futuriste. Et à l'usage, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Là, c'est vraiment la question qui se pose. Et je doute, pour l'instant en tout cas, qu'il y a vraiment un intérêt... aller taper un email en réalité virtuelle, par exemple.
Ouais, c'est ça, en fait. Quel est l'intérêt de cette nouvelle interface ? Avoir son bureau un petit peu partout, OK, mais est-ce que ça nous permet de mieux travailler, quoi ?
Ouais. Ce qui est intéressant, par contre, sur le hardware, je reviens vite, parce que tu l'as pas signalé, mais il y a une baisse de prix. L'Oculus Quest 1 était à 400 $. L'Oculus Quest 2 passe à 300 $, donc il y a 100 $ de moins. Et ça s'intègre dans une stratégie où Oculus avait trois casques avant. Ils n'en ont plus qu'un désormais. Ils avaient un casque d'entrée de gamme qui était l'Oculus Go, le Quest et donc le Rift qui était le casque historique, le casque haut de gamme. Ils n'ont plus qu'un casque, le Quest 2. Donc, ils resserrent l'offre. On sait qu'ils ont eu des problèmes de production avec des pénuries. Donc là, on simplifie le processus industriel et surtout, on est plus clair au niveau du grand public. Il y a un seul casque, $300, on n'a pas besoin de mettre un téléphone dedans, on n'a pas besoin de le relier à un PC. Donc ça, on essaie d'élargir l'offre, enfin, pardon, de simplifier l'offre pour essayer d'élargir le public. On sait que Zuckerberg a dit qu'il voulait 1 milliard de gens sur la réalité virtuelle, on est très loin. Donc on cherche toujours la bonne stratégie pour adresser ce marché.
Mais du coup, je comprends tout à fait ce que tu dis, mais quand tu dis dans la même phrase « est-ce que le bureau virtuel, ça va servir à quelque chose ?» Il est convaincant, hein, leur démo, comme tu le dis, elle est très très belle. On a une surimpression, c'est presque de la réalité augmentée, on a une surimpression du bureau virtuel avec plusieurs fenêtres, c'est vraiment un système d'exploitation dédié, et c'est ambitieux un système d'exploitation. Mais derrière, on peut voir l'image noir et blanc très basse définition de l'environnement réel. Donc, s'il y a quelqu'un à côté qui fait quelque chose, on peut le voir à travers les fenêtres. Donc, c'est convaincant. Mais comme tu le dis, moi, ce qui ne me convainc pas encore, c'est les applications. À quoi est-ce que ça sert vraiment de faire ça en virtuel plutôt qu'en réel ? Bon, on peut avoir un décor de plage derrière au lieu d'avoir notre chambre. Mais bon, ça, ouais.
Ouais, mais c'est le problème de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée encore plus, c'est que la réalité virtuelle, il y a les jeux au moins qui a un usage qui est développé, qui
est clair, qui a montré, au moins, ouais.
Et qui a une valeur qu'on ne peut pas trouver sur d'autres types d'appareils. Voilà, je sais que par exemple HoloLens disait, vous allez pouvoir regarder Netflix en hologramme, mais quel intérêt, hein. Donc c'est vraiment, il n'y a pas d'usage encore aujourd'hui, et c'est pour ça que la réalité augmentée technologie, peut-être pas encore après, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas l'usage qui justifie un intérêt des développeurs. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. S'il y a pas, les développeurs ne sont pas intéressés, ils ne développent pas l'application, donc les gens n'achètent pas. Donc c'est vraiment difficile de sortir de ce cercle vicieux, en fait.
Mmh. Gaël, toi, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont intéressé là-dedans ? Je crois que tu n'es pas trop réalité virtuelle, donc c'est peut-être pas ta tasse de thé.
C'est surtout que je ne suis pas très Facebook, mais...
Oui, non, mais on l'a... On l'a mentionné un petit peu la semaine dernière, je crois. Désormais, pour utiliser ces appareils, il faut un compte Facebook et un login Facebook. Alors oui, on peut en créer un bidon, mais il n'empêche, il faut être dans l'écosystème Facebook pour utiliser tous ces appareils, ce qui peut en arrêter certains. Ouais.
Voilà, moi, c'est ce qui m'arrêterait en numéro 1, de redonner ces informations à Facebook, parce qu'effectivement, c'est pas une plateforme dans laquelle j'ai confiance. Et effectivement, pour le travail, par défaut, j'ai plutôt tendance à aller chercher le HoloLens de Microsoft que Facebook. Mmh. Voilà, donc j'avoue que je suis assez surprise, effectivement.
Après, c'est pas le même prix aussi, hein. HoloLens, c'est beaucoup plus cher.
Oui, mais après, quand tu es une entreprise, je pense que tu es plus prêt à payer un HoloLens qu'un Facebook. Effectivement, après, à titre individuel, il vaut mieux aller sur un Facebook, mais il ne propose pas là des services. Enfin, ce qu'il présente a l'air d'être plus pour le business, et finalement, c'est ça qui, je trouve, assez surprenant et assez paradoxal. Après, sur l'usage, j'ai cru, peut-être que je me trompe, comprendre que, et je ne pense pas que ce soit dans cet esprit-là qu'il est fait, mais que ça ait des usages pour les personnes en situation de handicap. De pouvoir travailler de manière virtuelle grâce à ça. Mais je ne pense pas que c'était leur objectif premier.
Non, leur bureau virtuel essaye de reproduire et d'augmenter une expérience de bureau classique avec des fenêtres qui se baladent autour de votre environnement, mais elles flottent au-dessus du bureau au lieu d'être sur des écrans que vous avez physiquement sur votre bureau, quoi. C'est un petit peu ça, pour résumer très simplement. Bon, vous n'avez pas mordu... Oui, vas-y, Jérôme.
Une autre chose, parce que tu ne l'as pas signalé, mais ils ont parlé donc de la réalité augmentée avec l'objectif de lancer des lunettes de réalité augmentée en quelques années. Il n'y a pas de date précise, avec Ray-Ban notamment. Mais ils vont lancer des lunettes connectées l'année prochaine. C'est ce qu'ils ont annoncé, des lunettes donc moins ambitieuses qui seront connectées. On ne sait pas trop exactement à quoi ça va correspondre, quelles seront les applications qui seront disponibles. Avec une volonté d'avoir un produit qui soit un produit attrayant. C'est pour ça qu'il y a un partenariat avec Ray-Ban. Donc ça, c'est quand même à signaler. Ils devancent, en fait, peut-être Apple, si Apple se lance. Il y a d'autres startups qui sont aussi sur le marché, mais en tout cas, ils y croient beaucoup. Zuckerberg y croit beaucoup. Alors après, ils croyaient beaucoup dans la réalité virtuelle. Pour l'instant, on attend toujours de voir ça se matérialiser, donc on verra.
C'est un petit peu de l'esbrouf, à mon avis, cette annonce, parce qu'effectivement, tu as raison, ils ont annoncé pas un, mais deux projets de réalité augmentée. Leur projet à long terme, où ils disaient effectivement, on aura des lunettes de réalité augmentée avec le projet Aria, pas de l'année prochaine ou celle d'après, mais d'ici 10 ans, c'est ce qu'ils disaient. Et comme je le disais, le projet de recherche est vraiment impressionnant et on sent qu'ils sont très très sérieux sur le truc et que ça pourrait donner des choses. Mais ils ont aussi annoncé ces lunettes en partenariat avec Ray-Ban, mais ils ont littéralement rien dit dessus. Mais rien. Ils ont juste dit, on aura dans un an des lunettes avec Ray-Ban. Ok, d'accord.
Bah, je ne sais pas où ils en sont aussi. On ne sait pas où ils en sont dans leur développement aussi. Donc peut-être qu'ils n'ont rien à annoncer aujourd'hui.
C'est possible, oui. Mais pour les lancer l'année prochaine, ils doivent savoir où ils vont quand même.
Non, mais je pense qu'ils sachent. Mais après, c'est peut-être trop tôt aussi pour donner des indications sur ce qu'ils vont faire.
C'est possible, c'est vrai.
Mmh. C'est vrai que au niveau juste du projet Aria, c'est intéressant de voir que Facebook, on le sait, c'est peut-être l'une des dernières boîtes de la Silicon Valley qui a ses projets un peu fous, quoi. Parce que même Google a beaucoup désinvesti sur ce domaine. Apple, on ne sait pas trop ce qu'ils font, ils sont très secrets. Mais Facebook, ils ont ces projets à long terme qui ne sont pas forcément reliés à leur cœur de métier. Ils continuent et c'est vrai que ça... On peut ne pas aimer Facebook, mais on peut au moins apprécier le fait que la technologie.
Non, je suis d'accord. Il y a très peu de moonshots aujourd'hui dans ces sociétés-là. Il y en a quelques-unes, mais qui sont en développement plus avancé. Facebook, ils cherchent la prochaine plateforme, en fait, pour ne pas se faire dépasser comme ils ont dépassé les autres. Leur idée, c'est d'avoir la prochaine plateforme et d'être en avance là-dessus, et donc de rechercher, effectivement. Tu le notes, Apple est, d'après les très nombreuses rumeurs qui semblent être avérées, en train de travailler également sur un casque de réalité augmentée. Donc on aurait peut-être les deux sociétés, Facebook et Apple, qui se feraient concurrence dans ce domaine. Bon, bah écoutez, voilà pour nos deux gros sujets d'aujourd'hui. Apple d'une part et Facebook Connect de l'autre. Je vous propose de faire une toute petite pause pour parler un instant de quoi ? De Patreon. Et oui, Patreon, c'est le moyen de soutenir l'émission. Mais pour parler de Patreon, ça me donne l'occasion de parler également de l'évolution des émissions. Comme vous le savez, en début de mois, j'ai lancé différents projets. Il y avait la newsletter publique qui a été lancée de manière plus large. D'ailleurs, plein de choses intéressantes dans la newsletter de ce mois-ci, je vous en parlerai tout à l'heure. Dans le Discord public, une partie du Discord public est ouverte aussi. Il y a eu le passage en hebdomadaire du rendez-vous jeu et depuis, bah, comme je le disais aujourd'hui et la semaine dernière, un petit peu de Twitch de temps en temps. Je suis en train de voir si je peux apprivoiser le truc pour diffuser en live. Il y a presque une cinquantaine de personnes qui regardent en ce moment l'enregistrement de l'émission, donc c'est très cool de vous avoir. Et tout ça, c'est possible grâce à Patreon. Et Patreon, en fait, est en train, je ne sais pas à quel point c'est public, donc je vais vous annoncer un petit truc un petit peu secret, ils sont en train de passer le site en français, normalement d'ici la fin du mois. Donc, à l'occasion du passage du site en français, je vais mettre en place la dernière étape de ce mois de Patreon et de la rentrée, avec toutes ces nouveautés et toutes ces nouvelles choses, et la chaîne YouTube d'ailleurs que j'ai lancée aussi. Je vais lancer la refonte du Patreon, je pense, à l'occasion du passage en français, donc d'ici une semaine, 10 jours. Et donc, la refonte du Patreon va être simplifiée. Il y aura moins de niveaux différents pour pas que les gens soient perdus dans le nombre de niveaux de soutien. Et attention, le niveau 2 va disparaître. Donc, si vous voulez avoir accès au Discord privé, bah, vous pouvez le faire encore aujourd'hui pendant un petit moment, avec un prix qui sera moins élevé que celui d'après. Donc, c'est comme vous voulez, hein, bien sûr, mais c'est peut-être le moment de le faire. Et puis, à la refonte, il y aura effectivement le passage en français, l'activation des euros, etc. Donc, ça sera toute une nouvelle étape pour le Patreon pour la France. Donc, ça sera cool. Mais quoi qu'il arrive, on me demande dans la chatroom, c'était pas encore en français Patreon, c'était uniquement en anglais et en dollars. Là, avec la refonte que je vais faire, ça sera en euros, il y aura la possibilité de payer en euros et en français. Donc, ça sera merveilleux pour tout le monde. Ça, ça arrive. Il faut que je travaille un petit peu dessus. Mais dans tous les cas, que ça soit en euros, en dollars, en français, en anglais, vous savez que c'est le moyen de soutenir l'émission, le moyen de récompenser le travail que vous appréciez, si vous l'appréciez. J'espère que vous l'appréciez. Et donc, je vous encourage très chaleureusement et très vivement à y jeter un coup d'œil. Je vous dis pas qu'il faut immédiatement vous abonner sur Patreon, mais allez voir ce qu'il y a comme bonus, il y a plein de bonus cool, allez voir ce qu'il y a comme possibilité de soutien, et puis surtout allez voir ce que vous pouvez faire pour avoir la fierté de soutenir l'émission et de rentrer dans le club merveilleux des patriotes, des gens qui font partie de cette communauté, des gens qui soutiennent le travail qu'ils apprécient. Je serais hyper heureux que vous alliez au moins jeter un coup d'œil sur patreon.com/RDVTech, le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. Vous savez où le trouver, patreon.com/RDVTech. Je vous remercie tous et toutes qui soutenez l'émission.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, on va continuer avec les news suivantes et un petit passage sur TikTok. Parce que on en parle depuis des semaines, donc on ne va pas en parler très longtemps. Mais il faut quand même dire que c'était bien le foutoir la semaine dernière et le week-end. Il y a eu une annonce que TikTok et WeChat, d'ailleurs, seraient bloqués des App Store, puis qu'un deal avait été trouvé entre ByteDance et Oracle, mais qu'il y aurait non pas un rachat, mais une prise de participation et une intégration de la couche technique pour l'hébergement des données aux États-Unis, ce que d'ailleurs certains ont fait remarquer que avant c'était l'espionnage de la Chine, et désormais avec les outils légaux qu'ont les États-Unis, bah, ça voudrait dire que les données hébergés chez eux, eh ben, ils pourraient espionner ça au niveau du gouvernement. Donc ça, ça avait l'air acquis. Et puis finalement, on a appris que l'application ne serait pas bloquée, qu'il y avait un délai de 2 semaines, mais que le deal ne plaisait pas à Donald Trump, qui voudrait que ByteDance ne garde pas de majorité. Et il a également dit qu'il voulait 5 milliards de dollars des sociétés impliqué dans ce deal pour créer un fonds, et alors là, ça devient lunaire, pour créer un fonds d'éducation qui enseignerait la vraie histoire du pays, l'histoire patriotique. Sous-entendez qu'on ne parle pas d'esclavage, c'est à ça qu'il faisait référence directement. Bref, c'était complètement... Je sais même plus quoi en penser de cette histoire. Je suis à la fois frustré... Techniquement, hein, c'est même pas une question d'opinion politique, mais par la technique, l'économie, tout ça, les annonces contradictoires, c'est le bordel total. On n'y comprend rien et ça amène, comme on le disait la semaine dernière, énormément d'incertitudes dans ce domaine. Ça met des précédents. On en parlait avec Cédric la semaine dernière, donc je ne vais pas refaire le topo. Mais en gros, on n'en sait pas plus. C'est toujours le bordel et c'est encore plus le bordel qu'avant, si vous pouvez imaginer ça. Je ne sais pas si, Jérôme, je me retourne vers toi encore, mais si tu y comprends un petit peu plus ou pas. Mais...
En fait, c'est assez clair, finalement.
D'accord, merci. Tu vas clarifier tout ça, vas-y.
Mais c'est assez clair. On va faire vite. Trump ne veut plus TikTok chinois. Voilà. La Chine dit qu'on n'acceptera jamais que TikTok soit vendu à une entreprise américaine. Donc, il faut trouver un compromis. Le compromis, il a été trouvé. C'est un partenariat technologique. C'est Oracle qui héberge les données. Une prise de participation d'Oracle et de Walmart, donc 20%, dans une nouvelle entreprise qui s'appelle TikTok Global, entreprise qui regroupe tout TikTok hors Chine. Le point qui bloque aujourd'hui, donc l'accord a été trouvé ce week-end. Trump a dit oui, moi, sur le principe, je suis d'accord. Ce qui bloque, en fait, c'est l'actionnariat de TikTok global. On sait qu'il y a 20% pour Oracle et Walmart. Qu'est-ce qu'on fait des 80% restants? Oracle et la Maison Blanche dit les 80% restants seront répartis parmi les actionnaires actuels de ByteDance. Et parmi ces actionnaires, il y a des Américains. Donc, ce qui fait que TikTok Global est détenu majoritairement par des Américains. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça qu'ils s'en sortent en disant 53% du capital sera détenu par les Américains, 36% par les Chinois, 11% par des investisseurs européens. Là où ça bloque, c'est que la Chine et que ByteDance disent non, 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 c'est pas du tout comme ça que ça va marcher. Les 80%, on les garde. C'est chinois. Donc, voilà, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où la Chine dit c'est soit on garde tout, ça se fait pas, et les États-Unis soit vous gardez pas tout, soit ça se fait pas. Donc là, c'est là où il y a le problème. Alors après, il faut savoir juste de demander si c'est juste une guerre de communication parce qu'il y a des pressions de l'opinion publique des deux côtés en fait. Aux États-Unis, il y a des républicains qui disent à Trump d'être plus sévère. En Chine, on se dit mais il faut pas céder à Trump. Soit c'est juste une guerre de communication, soit c'est un vrai imbroglio, c'est des vraies divergences qui pourraient remettre en cause l'accord. Mais voilà, pour l'instant, on attend de savoir s'ils peuvent se mettre d'accord. Mais l'accord, il existe. Si ce n'est pas ça, là, par contre, ça sera plus compliqué pour savoir ce qui va se passer.
Ouais, sauf que Trump a dit d'abord, je suis d'accord sur le truc pour le principe. Et puis, il a dit, bon, bah, maintenant, on bloque les applications des App Store. Et puis, possiblement, parce qu'une partie de son électorat est sur TikTok, les jeunes en tout cas, il a dit, OK, bon, bah, on laisse 15 jours de plus pour discuter. Et puis, il a dit, non, non, finalement, j'approuve pas le deal pour cette histoire de 80%, effectivement. Mais il avait dit qu'il était d'accord sur le principe avant. Donc, il savait bien, l'accord, il n'a pas été transformé en deux jours, tu vois, entre le moment où il a dit.
Non, mais très honnêtement, on en est là. On en est samedi
soir.
Oui, je suis
d'accord.
C'était, 53% sera détenu par les Américains. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment l'accord qui a été conclu, mais Biden, aujourd'hui, soit a fait marche arrière, soit ils ne se sont pas compris. Et ce qui ouais. est peut-être possible. Mais
Trump, dans ces histoires-là, c'est difficile de dire qu'ils ne sont pas compris. C'est des accords qui doivent être millimétrés et oui, le président américain ne peut pas dire « Ok, je suis d'accord sur le principe » et puis dire après « Non, non, non. »
Oui, non, mais sans manquer de respect à M. Trump, mais il a parlé sur Fox News hier matin, il a raconté n'importe quoi. Oui. Je crois que je ne sais pas s'il comprend vraiment toutes les subtilités qu'il y a derrière.
C'est ça.
Et sur les 5 milliards que tu mentionnais tout à l'heure, c'est encore plus n'importe quoi. Donc, Trump dit on veut 5 milliards pour ce fonds sur l'éducation. Trésor américain, donc, qui derrière le deal, qui vraiment est l'architecte, les petites mains qui s'occupent du deal, dit en fait, ces 5 milliards, ce n'est pas pour financer l'éducation, c'est 5 milliards de charges sociales que pourraient générer les 25 000 emplois que TikTok Global va créer aux États-Unis. On ne sait pas quand. Donc, vraiment, c'est. Et Biden dit, mais nous, on n'a jamais dit qu'on allait donner 5 milliards pour l'éducation, c'est jamais de la vie. Oracle dit, ouais. Oracle, donc un discours un peu plus nuancé parce qu'ils sont proches de Trump, dit oui, oui, si, il y a bien un fonds sur l'éducation, mais ce n'est pas financé sur 5 milliards, c'est beaucoup moins, ça sera financé quand on entrera en bourse. Si on entre en bourse, quand Trump ne sera peut-être même plus élu à la Maison-Blanche,
ouais, ouais.
Bon, c'est un micmac sans dessus-dessous. Parce que, à mon avis, hein, ça c'est personnel, mais il y a au sein de l'administration Trump, divers courants, divers. On sait, il y a Steven Mnuchin qui lui est plutôt qui est plutôt proactif pour que ça se passe. Il y a Pete Navarro qui lui est très contre la Chine. Et donc il y a différents mouvements et Trump change un peu d'avis du jour au lendemain. Mmh. Et ce qui fait qu'on en c'est ça semble pas très clair.
On est d'accord. Bon, passons maintenant de l'autre côté. À moins que Gaël, tu aies des choses à ajouter, hein, n'hésite pas. Mais...
Non, je pense que je ne vais pas rajouter à la confusion.
D'accord, merci. De l'autre côté, j'ai lu un article absolument fascinant de The Register sur une base de données qui a été découverte, une base de données chinoise. Si vous pensez que les États-Unis maltraitent la Chine, et je pense qu'il y a des raisons, alors c'est des questions d'accords commerciaux et de pression et de jeux de poker et d'échecs, mais on a découvert une base de données chinoise qui était sur les serveurs d'une société privée, mais qui évidemment a des liens avec le gouvernement et avec d'autres sociétés là-bas, de 2,4 millions de personnes, entre guillemets, influentes. de personnes influentes, c'est très très large. Hein. 2,4 millions, vous pouvez bien imaginer que ce n'est pas juste les personnalités politiques, de personnalités influentes en Occident, aux États-Unis, mais pas que, sur eux, sur leurs enfants, avec leurs adresses, et surtout les moyens de les influencer. Leurs habitudes, leurs préférences politiques, leurs loisirs, leur... enfin, un truc d'organisme d'information, d'intelligence étatique, mais un niveau d'ampleur qui est impressionnant. 2,4 millions, il y avait énormément de journalistes, dont certains journalistes du Register. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de décrire plus. L'article en lui-même sera d'ailleurs dans la newsletter, mais l'article en lui-même est assez édifiant. J'imagine que peut-être, Jérôme, toi, tu es dans cette base de données. Il y a plein de gens qui sont dans cette base de données. Mais c'est, on va dire, pour le moins inquiétant, j'ai trouvé. Bon, personne n'a envie de commenter là-dessus. Non, mais... Sans doute, n'avez-vous pas envie de vous retrouver encore
exactement
plus dans la base
ça
de données.
On ne veut pas y être. Non, mais en fait, c'est quelque chose qui a toujours existé. N'importe quelle agence de RP fait ce genre de choses. Là, ce qui est impressionnant là, c'est la volumétrie. C'est la volumétrie qui fait la différence, que 2,4 millions, c'est juste hallucinant. Après,
c'est ça.
Cette technique-là, tout le monde l'utilise dans tous les pays, surtout que ce soit dans le business, dans la politique, dans les médias, etc. Mais la volumétrie est juste, c'est vertigineux.
C'est-à-dire que tu parlais d'agences de RP, effectivement, tu peux avoir des agences de RP avec les célébrités, peut-être certains gros journalistes sur les sujets que tu couvres, mais c'est les 2,4 millions qui sont importants. Et puis, le niveau des informations, les adresses, les hobbies, les enfants, tu vois, c'est quand même...
Non, mais ça, le niveau d'information, c'est quelque chose qui est toujours utilisé, que ce soit les enfants, le chien, le chat et tout ça, c'est pas ça qui est impressionnant, c'est la volumétrie.
D'accord. 2,4 millions, tous les gens que ça touche. Jérôme, tu crois que tu es dans cette base de données, toi ? Vas-y, pardon.
Pas si je suis assez influent pour intéresser la Chine.
je précise, hein, 2,4 millions, ça ratisse très large. Il y avait plusieurs journalistes, un certain nombre de journalistes de The Register, qui est quand même pas la publication la plus importante du monde de la tech, mais il y avait un certain nombre de leurs journalistes, pas juste un certain nombre de leurs journalistes qui étaient dans cette base de données. Donc ça ratisse.
Alors, j'écris sur Huawei plusieurs fois, peut-être.
Ah bah voilà.
Mais sur le chiffre, c'est vrai que ça paraît beaucoup. Après, il faut se dire, avec aujourd'hui les outils qui sont à la disposition des services de renseignement en termes d'algorithmes, en termes d'intelligence artificielle, de data center aussi, c'est pas tant que ça finalement. Enfin, c'est beaucoup sur le nom, mais ça m'étonne pas qu'ils soient capables de le faire en fait.
Ouais.
Je pense que si les services américains n'ont peut-être pas 2,4 millions de personnes dans leur base de données, mais ils ne doivent pas être très loin non plus. Hein.
Je comprends ce que tu veux dire, oui, c'est sûr qu'ils doivent avoir des informations sur beaucoup de monde également. Peut-être que c'est pour ça que cet article n'a pas forcément fait énormément de bruit. Peut-être que tous les services de renseignement ont fait « chut, chut, n'en parlez pas, c'est que les gens n'aient pas fouillé, possible ». Bon, quelques petites news franco-européennes. Emmanuel Macron a confirmé que la France allait bien prendre le « entre guillemets », j'ouvre les guillemets, le tournant de la 5G. Vous avez peut-être vu qu'il y avait une tribune qui avait été publiée par certains élus qui demandaient, sur des bases qui étaient pour le moins discutables, de remettre en question l'installation de la 5G en France. Emmanuel Macron a dit qu'on n'allait pas, bien sûr qu'on prend toutes les mesures nécessaires, mais on n'allait pas remettre ça en cause. Une Cour de l'Union européenne, je crois que c'est la Cour suprême de l'Union européenne, a déterminé que le zero rating allait à l'encontre des règles de la neutralité du net. Le zero rating, si vous ne connaissez pas cette nomenclature, c'est l'offre de services inclus dans votre abonnement téléphonique mobile qui ne compte pas dans votre forfait de données. Donc, on peut vous dire, par exemple, vous avez accès à Spotify, mais ça compte pas dans vos 15, 20, 50 gigas de données. Alors, ils ont dit ça enfreint aux règles de la neutralité du net, ce qui est, à mon sens, une bonne décision. Toujours en Europe...
Juste pour me permettre
vas-y,
de
vas-y. Prendre,
Patrick, juste pour être exact, ils n'ont pas tout à fait dit ça. Ils ont dit... C'est interdit si vous faites une discrimination. Si par exemple l'offre Orange dit moi je vous donne tout le streaming musical gratuit, ça c'est autorisé. Orange ne peut pas faire, c'est-à-dire je donne que Spotify.
Tout à fait. Dans la pratique, ce que ça interdit, c'est ces inclusions d'un service. Parce que je crois, à ma connaissance, aucun opérateur encore en France ou dans le monde, ou en tout cas en Europe, n'a dit « on vous donne tous les services de musique gratuitement ». Il pourrait le faire maintenant, mais pour respecter justement les questions de concurrence, pour ne pas en privilégier un. C'est ça le but, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. Et surtout parce que donc, ça permet, le zéro rating, c'est quelque chose qui avantage toujours les plus gros, hein. Aujourd'hui, Spotify a l'argent pour payer un opérateur parce que l'opérateur ne fait pas ça gratuitement, généralement.
Ouais, c'est
l'application qui paye pour être gratuite, pour avoir les données gratuites. Donc, ça empêche d'avoir des nouveaux acteurs. Il y a une autre chose qui n'est pas forcément le cas en France, mais ailleurs, où les opérateurs ont leurs propres services. Aux États-Unis, par exemple, les opérateurs ont beaucoup de services de vidéo. Ils peuvent donner leurs services gratuitement au détriment des autres services. Donc là aussi, c'est un autre problème de concurrence.
Tout à fait, oui, c'est sûr. Alors, l'Union européenne, encore elle, a annoncé que s'il n'y avait pas d'accord global sur une taxe du numérique d'ici 2021, eh bien, ils en proposeraient une en 2021. Ils ont également annoncé qu'ils allaient dépenser 150 milliards d'euros dans le fonds de rétablissement du Covid, de la crise économique du Covid, pour des initiatives numériques, ce qui est plutôt une position intéressante à mon sens. Et il y a différentes choses qui sont incluses dans ces 150 milliards, dont 8 milliards pour rivaliser avec les plus grandes puissances dans les superordinateurs. Et également dans ce contexte, on a appris qu'OVH, qui est un gros acteur du cloud français, pas que du cloud, mais notamment du cloud, qui va s'allier également à l'Allemagne, à un opérateur allemand, pour essayer d'offrir un acteur du cloud européen qui puisse rivaliser avec d'autres acteurs mondiaux. Ça pourrait faire sourire certains, mais on ne se rend pas forcément compte à quel point OVH a une croissance incroyable et est une alternative crédible dans ce domaine. Et en plus, ça intervient à un moment où l'accord d'hébergement du Health Data Hub français avec Microsoft est un petit peu remis en cause, ou en tout cas questionné, pour ces raisons justement d'hébergement de données de santé sensible française chez un acteur américain, même si Microsoft assure que les serveurs sont en Europe et donc pas vraiment problématique. Il y a quand même toutes ces questions de privacy shield, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, l'Europe est en train d'essayer de se doter d'acteurs et de moyens pour un petit peu plus d'autonomie et de souveraineté numérique, au moins pour les services ou les infrastructures essentielles, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, je crois. Je vois que là non plus, ça n'intéresse personne. Très bien.
Ah non, mais c'est très intéressant. Ce qui est intéressant dans l'accord d'OVH et du cloud souverain européen, c'est qu'il y a eu déjà des tentatives de cloud souverain, en France, par exemple, ça n'a pas marché. Là, la logique, c'est de dire le marché français est trop petit. Donc, essayons d'avoir un cloud souverain au niveau européen avec un marché qui est beaucoup plus grand. Va nous permettre d'avoir des acteurs capables de rivaliser potentiellement avec Amazon, avec Microsoft, avec Google. Après, est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Je ne sais pas. Il y a, comme tu disais, il y a des questions de souveraineté pour certains types de données où là, ça serait intéressant d'avoir une solution souveraine. Pour l'entreprise lambda, est-ce que c'est intéressant d'aller chez OVH plutôt que chez Amazon ? C'est pas sûr.
C'est certain que, comme on dit d'ailleurs dans la chatroom, AWS ou Azure ou ce genre de service américain, c'est quand même des niveaux de service un petit peu différents. Mais d'une part, ça ne veut pas dire qu'OVH ne peut pas évoluer dans ces sens-là. Et puis surtout, ça peut être utile d'avoir cette solution souveraine pour spécifiquement l'hébergement des données ou des services essentiels. Ce n'est pas forcément immédiatement pour le grand public. Donc, ça peut être un chemin pour arriver à pour arriver dans cette direction, mais pas forcément tout de suite.
C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir quelque chose qui est au niveau européen, pas seulement au niveau français. Donc, c'est-à-dire, OVH, techniquement, OVH peut être utilisé par, en Finlande, par exemple, le gouvernement finlandais pourrait utiliser la solution d'OVH parce que c'est européen, pas.
Mmh. Tout à fait.
C'est là où ça pourrait être rentable, effectivement, parce que sinon, ça ne le serait pas.
Oui, oui, oui. Couvrir, bah, disons que le marché européen, c'est ça l'ironie, c'est que le marché européen est encore plus grand que le marché américain. Donc, il serait tout à fait possible. Bon, ensuite, il y a toutes les complexités des langues, des législations, etc., c'est sûr, mais bon, peut-être, ouais. Peut-être.
Non, et puis tu reviens au problème de fait du financement. En fait, si AWS a une position aussi dominante, c'est parce qu'ils sont partis très tôt et ils investissent des moyens, enfin des sommes que OVH ne pourra jamais investir. Donc, il y a un moment où c'est David contre Goliath. Donc, c'est difficile de lutter, même s'il y a plus de personnes en Europe qu'aux États-Unis.
C'est sûr. Une rumeur intéressante sur Microsoft qui serait en train de construire ou de concevoir un OS différent de ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Il s'appellerait une sorte de... Ce serait une sorte de Meta OS, qui serait une expérience à la WeChat. On a souvent parlé de WeChat hein, et de à quel point c'est une app sur iPhone et Android en Chine, mais qu'elle inclut tellement de services différents que ça en est presque un OS à lui tout seul. Eh bien, cet OS de Microsoft serait une sorte de, d'OS diffus sur toutes les différentes plateformes, donc une app peut-être sur les smartphones, un site web sur les ordinateurs ou peut-être d'autres formes par ailleurs, et qui intégrerait énormément d'expériences différentes de travail, de vie personnelle, etc. Et ils seraient en train de développer ça pour peut-être pas prendre la suite de Windows, mais arriver en parallèle. C'est un article de Marie-Jo Foley qui est très intéressant et une idée qui est intrigante. On avait entendu que Facebook était en train de travailler à quelque chose de similaire avec le futur de Facebook qui serait une app comparable à WeChat et beaucoup assez différente de l'expérience qu'on a sur Facebook aujourd'hui. Mais c'est quelque chose, une chose sur laquelle on ne voyait pas forcément arriver Microsoft. Il semblerait qu'ils soient en train d'y travailler également. Et puisqu'on parle de Facebook, ils ont annoncé qu'ils allaient donner le contrôle des images et de la propriété intellectuelle des images sur Facebook et Instagram à certains de leurs partenaires au départ. Mais en gros, c'est l'identification et la propriété de ces données qui sera donnée à ces partenaires et qu'ils pourront envoyer une notice d'utilisation frauduleuse qui contrevient au droit d'auteur pour supprimer les images des endroits où ils sont postés. Donc c'est le début du, je ne sais plus comment ça s'appelle, Content ID, je ne sais plus, j'ai oublié le nom de cette technologie d'identification sur YouTube pour les vidéos. Et c'est le début de ça pour les images sur Facebook. Je ne sais pas où ça va mener, mais voilà. La PlayStation 5 a été annoncée avec un prix et une date. Ça sera le 19 novembre en Europe pour 400 et 500 euros chez nous. Et les précommandes ont été ouvertes, ça a été un petit peu le foutoir, mais si vous voulez plus de détails sur la PlayStation 5 et d'ailleurs l'annonce du rachat de ZeniMax par Microsoft, qui est un énorme rachat dans le domaine du jeu vidéo et qui met Microsoft en position très intéressante à l'avenir, vous pouvez écouter le rendez-vous jeu, qui est désormais hebdomadaire comme on vous le disait. Allez, on va rêver un petit peu. IBM a annoncé qu'ils allaient pousser les ordinateurs quantiques avec, d'ici 2023, des ordinateurs avec plus de 1000 qubits. Si vous ne savez pas ce que c'est, sachez que c'est hallucinant d'avoir ce nombre de qubits dans un ordinateur. Alors, on n'y est pas encore. Dès l'année prochaine, ils auront un ordinateur avec 127 qubits. Ce que ça fait, les ordinateurs quantiques, ça démultiplie la capacité de calcul pour certaines choses, et notamment pour la cryptographie et pour le décodage de la cryptographie. Donc, on pourrait arriver dans un monde où toutes les choses qui sont chiffrées en cryptographie forte pourraient être décodées par certains ordinateurs. 2023, c'est pas si loin. Hein. Et 1000 qubits, ça pourrait... Je l'estime au doigt mouillé avec mes connaissances d'amateur. Ça peut décoder à peu près n'importe quoi très, très vite. Donc, ça peut casser le chiffrement de n'importe quoi très, très vite. Et enfin, Microsoft a annoncé que leur projet de... comment ils s'appellent, c'est les centres de données submergés qu'ils avaient testé depuis quelques années. En gros, c'est pour avoir des centres de données qui sont plus faciles à refroidir, qui sont plus sécurisés parce qu'ils sont complètement isolés, eh bien, ils mettent des centres de données dans des conteneurs, ils les plongent à 30 mètres de fond, ils les laissent là-bas, avec connexion, bien sûr, par câble, et puis ils les récupèrent au bout de quelques années. Ça coûte moins cher, ça consomme moins d'énergie, ça diffuse moins, ça utilise moins de forcément de gaz à effet de serre, enfin ça utilise moins de carbone. C'est un projet qui est intéressant, qui ne sera pas utilisé partout, mais qui fonctionne. Donc bon, c'est intéressant de voir que Microsoft essaye ce genre de choses. Je vous laisse un petit peu la parole sur tous ces sujets divers. Gaël ou Jérôme, si vous avez quelque chose à ajouter.
Juste savoir si... Pardon, vas-y.
Sur Microsoft, là, sur les data centers, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur les objectifs carbone, on sait que les data centers, ça consomme beaucoup d'énergie, que ça consomme, qu'on utilise de plus en plus de data centers, donc tout le monde a des projets, que ce soit Facebook ou Google ou les autres, ou Amazon, de mettre des éoliennes ou des panneaux solaires, on met les data centers tout au nord de la Suède pour que ça
soit plus facile à refroidir, ouais.
Voilà. Mais là, c'est vrai que si il y a ce côté sous-marin, ça peut être intéressant à voir comment ça marche, si ça fonctionne vraiment, et puis si ça peut contenir tout le trafic, toute la demande qui est nécessaire.
C'est sûr que ça ne sera pas pour tous les types de projets de serveurs, mais ça peut être utile dans certaines configurations spécifiques. Ce qui peut m'amener à vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces annonces de carbon neutral en 2030, en 2035, des différents GAFA? Est-ce que vous pensez que ça compte vraiment? Est-ce que c'est du greenwashing? J'en parlais tout à l'heure avec Apple, avec l'annonce d'Apple, mais là, ça nous donne l'occasion d'en reparler. Vous le voyez comment, toutes ces annonces?
Alors pour moi, c'est forcément du greenwashing, mais j'ai envie de te dire que ce soit pour du greenwashing, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est la finalité, et la finalité me paraît plutôt positive.
Alors attends, je te pose la question du coup, parce que pour moi, le greenwashing, c'est qu'on met une couche de peinture verte sur un truc qui n'est pas vert du tout. Peut-être
non,
que c'est...
J'ai appelé ça surcommuniquer sur ce côté-là pour se faire bien voir. Mais il faut qu'il y ait une réalité derrière. Je pense que, en tout cas, en ce qui concerne les GAFAM, il y a une vraie réalité. Enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, Microsoft, dans l'occurrence, il y a une réalité derrière. Ils le font vraiment. Ils vont jusqu'au bout du greenwashing, en tout cas. Et ça a un intérêt, même s'ils le font que pour... c'est peut-être dans le budget com et dans le budget RP que ça va taper, mais, et pas dans le budget R&D. Mais la finalité est bonne et ça a un intérêt. Il faut le faire maintenant, de toute façon. Donc,
Ou dans le budget RH aussi, parce qu'on sait que les salariés, notamment dans la Silicon Valley, ont des confiance sociale qui a développé, on va dire... et que ça fait partie des choses que les salariés veulent. Voilà, par exemple, je parle d'autre chose, mais par exemple, Total, par exemple, aujourd'hui, le gros problème de Total, c'est qu'ils n'arrivent plus à recruter des gens, des diplômés, ou ils arrivent moins à les recruter parce que ça ne fait pas rêver de travailler dans une boîte qui fait du pétrole. À l'inverse, si on se présente comme une entreprise qui est green, qui est carbone neutre, ben voilà, on peut plus facilement recruter, plus facilement faire plaisir aux salariés. Il y a juste juste sur Apple, il faut revenir à une chose, c'est que Apple veut être carbone neutre, mais le problème, c'est que est-ce qu'ils prennent en compte la fabrication des iPhones? Parce que s'ils disent, nous, Apple, en tant qu'Apple, entre nous-mêmes, on est carbone neutre, d'accord, mais si...
Les sous-traitants.
En fait, les sous-traitants aujourd'hui, plus les métaux rares qui sont utilisés, est-ce que ça, c'est pris en compte ou pas?
Alors,
ça change beaucoup de choses.
Tout à fait. Ce qu'ils disaient en tout cas dans leur annonce de la semaine dernière, Apple, c'est que l'objectif de 100% carbone neutral en 2030, ça inclut les fournisseurs. Donc c'est quand même ambitieux, et je crois que c'est le cas de tous ces objectifs, si je ne me trompe pas, de Google et d'Amazon et des autres. Ça inclut en fait l'ensemble du produit. Alors c'est 2030, Dieu sait ce qui va se passer d'ici là, et parfois un peu plus loin, mais ça inclut tout ça. Et moi, je suis un petit peu de votre avis, effectivement. Si c'est... En fait, c'est que les choses fonctionnent comme elles devraient presque. Parce que ces sociétés, elles ne vont pas se mettre à faire de l'écolo pour nous faire... Enfin, pour eux, leur intérêt financier. C'est la pression des consommateurs, la pression politique à travers les électeurs et les employés, enfin la pression publique qui fait qu'ils vont dans cette direction. Et je dirais tant mieux. Si on s'attend à ce que ces sociétés... par eux-mêmes se disent « bon, bah, on va se mettre à faire du verre, ça va nous coûter plus cher, mais c'est pas grave ». Non, évidemment. Encore que je dis ça, mais si on descend un tout petit cran dans le cynisme, peut-être que certains d'entre eux se disent « c'est un enjeu important pour l'ensemble de l'humanité, donc peut-être qu'avec la pression, c'est plus facile à faire passer auprès du board, etc. » Et en tout cas, ils sont tous en train d'aller dans cette direction. Espérons qu'ils continueront. Ils font déjà beaucoup de choses. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que, de ce que j'ai vu en tout cas, même les organismes qui surveillent ce genre de choses disent « Ok, c'est vrai, c'est pas mal, faut continuer, tout n'est pas parfait. » Mais généralement, ils disent « Ok, c'est pas mal. » Donc je me dis, bon, si même ces organismes disent ça, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière, c'est pas juste une couche de peinture verte, quoi. Espérons, de plus en plus de notre activité et de notre économie est basée sur tout ça, comme on le dit souvent, et c'est plus facile que d'autres choses à rendre vert. Il y a toute l'énergie solaire qui est possible à utiliser, les éoliennes qui sont faciles à utiliser, qui sont possibles à utiliser, et tous ces centres de serveurs sont plus faciles à faire passer au vert. Donc, très bien, allons-y. Bon, on verra. Allez, pour conclure, je vais quand même vous faire sourire un petit peu. Normalement, je devrais pouvoir faire en sorte que tout le monde entende les choses dont je vais parler tout de suite. Alors, je vais passer ici, hop, pour qu'on entende sur Twitch et dans le podcast. Ce qui se passe sur TikTok, il y avait un thread hyper intéressant que j'ai attrapé sur Twitter. Il sera d'ailleurs, entre parenthèses, également dans la newsletter, avec d'autres sujets hyper intéressants sur la Gen Z Mafia. Un autre article de Taylor Lawrence dans le New York Times qui est fascinant sur la manière dont justement les jeunes, les moins de 24 ans, ceux de la Silicon Valley, se mettent ensemble, notamment sur Discord, qu'on utilise aujourd'hui nous aussi, donc on fait un petit peu partie de la Gen Z Mafia, pour challenger les idées préconçues et les idées des vieux de la Silicon Valley pour faire les choses autrement et souvent de manière plus inclusive, plus verte, etc. Il y a aussi un truc assez inquiétant, un mémo qui a été publié par une scientifique qui étudiait les données de chez Facebook sur la manière dont Facebook a été utilisé dans différents pays qui ne sont pas des pays occidentaux pour influencer différentes élections, etc. Et comme Facebook savait... Et elle a dit, j'ai du sang sur les mains, je devais en parler. Et elle a démissionné de Facebook, elle a refusé une somme assez importante qui l'aurait obligée de ne pas en parler. Bref, tout ça sera dans la newsletter. Mais la chose dont je voulais vous parler, c'était, hop, alors là, je ne sais pas si vous avez entendu ça, sur TikTok, la manière dont les gens collaborent. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup, je vais vous faire écouter, j'espère que ça ne sera pas trop fort. Je vais baisser un petit peu le son. Hop, écoutez. Ça, c'est le premier TikTok qui a été publié dans ce thread. Stress me out, you used to calm me down. But now, I'm going out my mind. You stress me out, you used OK, premier créateur qui publie ça, en utilisant les outils de TikTok. Vous avez entendu, hein, n'est-ce pas? Tout passe bien?
Nous, on n'a pas entendu, en tout cas.
Vous n'avez pas entendu.
Je ne sais pas si c'était voulu ou pas.
Alors écoutez, vous n'avez peut-être pas entendu, ce n'est pas grave. Les gens du Twitch entendent. Je suis désolé, vous ne pourrez pas commenter.
On ne pourra pas commenter.
J'avais mal fait le truc. Peut-être que je peux essayer de vous le faire passer quand même. Alors, deuxième petit extrait, hop, on y va. Me, you used to calm me down, but now I'm going on my mind. Girl, you be stressing me out the way you caressing him. Then late at night you be texting me dirty messages, calling me up and confessing that you've been missing me. Why you gotta do this to me? I'm going on my mind. You stress me out. Vous avez entendu, là ?
Oui, on a entendu.
OK. Et collaboration sur TikTok. Un type qui poste ça, le premier, il dit « Allez-y, remixer avec la fonction duet de TikTok ». Un autre type, lui aussi assez connu, qui prend c'est Ryan Mack, le deuxième, qui prend le premier. Alors, je vais donner les noms parce qu'on est sérieux. Charlie Puth, qui poste le premier. Le deuxième, qui prend le truc, qui remixe, qui fait un duo. Ils ne se sont jamais rencontrés, ils ne se sont jamais vus. Et c'est des trucs qui vous donnent... Enfin, je ne sais pas, vous avez eu envie de vous mettre à danser, j'imagine, en entendant ça. Et vous vous dites, OK, très bien, deux trucs, facile, un duo, OK. Eh ben non, ça s'arrête pas là. Écoutez ça.
We stressed, depressed, and well-dressed. These shawty's saying we friends, but they just trying to finesse. I'm only trying to impress. I only be saying less, cause I'm doing more. I take you to foreign shores like Bora Bora, the Explorer.
Hey, franchement, c'est marrant parce que y a la manière dont on conçoit les interactions, la musique, les collaborations est en train de changer. Évidemment qu'avec Internet, ça change. Évidemment que ça c'est plus facile de collaborer à distance, mais là ça amène toute une nouvelle dimension et qui est complètement par ces outils de TikTok. Je sais pas, moi j'ai trouvé ça, peut-être que vous allez penser que que j'exagère, mais j'ai trouvé ça incroyable.
Non, moi je te rejoins, je trouve ça assez, c'est une nouvelle culture en fait, une nouvelle culture musicale et le résultat est franchement assez impressionnant, donc à voir la suite, parce que j'imagine qu'il y en a plein d'autres qui vont suivre.
Bah, ça c'est un exemple effectivement.
Trump peut interdire TikTok.
Mais non, mais ça rentre un petit peu dans ce débat aussi. T'imagines tous les jeunes aux États-Unis qui sont, et pas que aux États-Unis, hein, qui sont en train de faire ça, qui peuvent, eux, n'importe qui, collaborer avec leur chanteur, leur influenceur préféré avec ce truc. Si on leur coupe, ça a une influence. Alors évidemment, on met de côté la question de est-ce que TikTok est un outil du gouvernement chinois pour espionner les États-Unis et le monde. Ça a mis de côté. Si on enlève ce genre d'outils, parce qu'il n'y a rien de ça qui est possible. Alors, c'est possible si tu télécharges la vidéo sur Twitter ou sur Facebook, que tu la remixes, machin. Avec TikTok, c'est en deux secondes que tu peux faire un truc comme ça. Et d'ailleurs, il y a d'autres exemples de ces collaborations. C'est impressionnant parce que les gens qui font ce genre de truc, ils utilisent le micro de leur iPhone, mais de leur micro-casque. On les voit, ils tiennent... Tenez, je vais vous en faire écouter encore une.
Struggling passion, trying to let go of attachment, trying to calibrate my face so I end up in Calabasas. Other people out here laughing, my life is not a joke. Every single time I spoke, I know they don't want no smoke, cause we popping, balling ain't an option. Working every day, so look, my name is not forgotten. I'm the one they spotting on the billboards, the beats what I kill more, until I'm selling out arenas in the Fillmore. Justin Starlin, my name is...
C'est des trucs qui sont faits avec le micro du micro-casque. Je vais vous en faire encore un et je vous promets, je m'arrête après. She treat me like handlebar, all black Benz, my brand new car. I don't really spit, but I sing that shit. You might know my repertoire. G-string like she play guitar, token might just make you star. Played on the street for four damn years, wrote a million songs, became a millionaire. Pull up and I gotta count out my dough. Don't even flex, they already know. Massachusetts, shout out my home. California IA is where I roam. I know a lot of people who say they can do it better, but when I meet them, they bow down to the flow. I know that I'm a little bit late to the party, but like, can I get the D'Amelio? 2020 music pays, Addison, I'm with the rays. If I cannot rock the stage, ride that algo. Rhythm wave. Reminisce my viral days. Now I got hits on the way. Already got hits, want views these days. Maybe me and you should make a trade. Bon, allez, on s'arrête là. Vas-y.
Là où on voit en fait l'avance de TikTok, parce que c'est vrai que, enfin, moi je suis pas utilisateur de TikTok et je sais pas si vous l'êtes aussi, mais ça m'étonnerait. Mais c'est vrai que de l'extérieur, on a du mal à comprendre le phénomène TikTok quand on n'est pas adolescent et qu'on ne passe pas sa vie sur TikTok. On ne comprend pas, par exemple, pourquoi Instagram ou d'autres n'arrivent pas à combattre TikTok. parce qu'ils ont des choses, ils ont une communauté, ils ont des possibilités, des outils que n'ont pas forcément les autres. Et c'est ce qui explique pourquoi TikTok est si populaire et pourquoi on est, y a personne qui arrive vraiment à rivaliser avec eux. Et d'ailleurs, juste parce que j'en profite, tout à l'heure, on n'a pas précisé, mais dans l'accord qu'il y a avec Oracle, la valorisation retenue pour TikTok, c'est 60 milliards de dollars. Donc 60 milliards de dollars, juste pour donner un ordre d'idée, c'est deux fois Snapchat, c'est deux fois Twitter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, TikTok vaut deux fois plus que Twitter. Dire l'importance aujourd'hui qu'a TikTok, c'est énorme pour...
Non, mais on est d'accord. On est d'accord. J'espère que ce petit featuring de TikTok vous aura donné un petit peu, vous aura ouvert une petite fenêtre sur l'intérêt que peut avoir cet outil. Je sais pas, Gaëlle, si tu veux ajouter quelque chose pour conclure et puis on va refermer l'épisode.
Parce que j'attends le duet que tu vas faire sur TikTok.
Écoute, vraiment, dans la chatroom, c'est c'est qui est-ce qui disait Mesikid21 disait, pour reprendre l'édito de Patrick, j'avais fait un édito un petit peu sur le sujet, pour les patriotes, il disait « lancez-vous, ces jeunes l'ont bien compris », c'est ce que disait Mesikid. Mais c'est exactement ça. Tu prends ton téléphone, tu n'as besoin de rien d'autre, tu prends le micro-casque avec le petit truc blanc, tu le mets près de ta bouche, et voilà, et t'es lancé. C'est une culture, une façon d'envisager les choses qui est complètement différente.
Et c'est ça qui fait la différence, c'est la simplicité en fait. Et contrairement à ce qu'on pense, les jeunes ne savent pas mieux utiliser le numérique, ils utilisent ce qu'il y a de plus simple. Et plus tu leur donnes quelque chose de simple, plus ils l'utilisent.
Ouais. Bon, bah écoutez, ça va être tout. Comme je le disais, ce thread Twitter sera également dans la newsletter de cette semaine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, vous savez que le lien est dans les notes de l'émission et également sur notepatrick.com pour vous abonner à la newsletter. Chaque semaine, je vous livre le meilleur de ma veille qui est extrêmement large et j'essaye d'en tirer les meilleurs articles. Donc, vous pouvez la voir. Comme je disais, vous vous inscrivez sur notepatrick.com, il y a un petit lien. Et en parlant de newsletter, tiens, Jérôme, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans l'épisode. C'était hyper intéressant d'avoir ton expertise sur tous ces sujets. Je crois que tu es aussi dans le monde de la newsletter.
C'est ça, j'ai lancé, donc je suis rentré en France il y a un an, donc passé 7 ans à San Francisco. Et donc j'ai lancé en septembre, le 4 septembre, donc ça fait 3 semaines, demain ça fera 3 semaines. Cette newsletter donc, s'appelle Café Tech, qu'on envoie donc, à 7h30 tous les matins et qui, l'idée, c'est de faire un décryptage de l'actualité tech. Donc, par exemple, aujourd'hui, on revient sur Oracle et TikTok. Pourquoi Oracle rachète TikTok? Voilà, donc c'est essayer d'avoir tout ce que vous voulez savoir directement sur votre mail le matin, 7h30. Voilà.
Eh ben, c'est très simple, cafetech.fr pour s'abonner également. Donc, c'est ça. Et on mettra le lien vers ton compte Twitter dans les notes de l'émission. Vous pouvez retrouver tout ça là-bas aussi. Entre parenthèses, puisqu'on a la chatroom, Dragomodo dans la chatroom nous dit que l'un des rappeurs qu'on a écouté, c'est Token, qui est assez connu, qui est une grosse étoile montante. Et Adrien Bib, c'est ça, nous dit que Lil Wayne avait déjà fait un album depuis son téléphone, depuis sa prison. Donc, comme quoi... Les outils compliqués, ce n'est pas forcément nécessaire pour faire de la musique. Gaëlle, où peut-on te retrouver sur Internet?
Eh ben moi, ça va être sur coud.fr ou Twitter, @coud_fr, coud, COOD. Et puis moi, JM Girardot, mais je suis plus avec mon compte coud qu'avec mon compte perso, donc plutôt sur coud.
Sur coud, si on est un parent inquiet ou en tout cas curieux et qu'on se dit j'aimerais comprendre le monde dans lequel vivent mes enfants et tous ces trucs de TikTok que je comprends pas, est-ce que c'est une bonne ressource pour ça ou c'est vraiment pour l'éducation des enfants au numérique?
Non, alors on est en train, alors c'est pas encore tout à fait prêt, mais justement on est en train de faire des modules pour les parents sur notre appli Coud Academy, même s'il y a déjà des choses sur lesquelles ils peuvent aller voir en même temps que leurs enfants. Mais on est en train de faire ça, ouais, des modules spéciales parents sur notre appli, donc Coud Academy, qui est disponible. Mais...
Super. Eh bien, écoute, coud.fr pour tout ça. N'oubliez pas non plus cafetech.fr pour la newsletter de Jérôme. Et si vous le souhaitez, vous avez notepatrick.com pour tous mes liens à moi, y compris ma newsletter. Très beau site que je trouve très, très beau moi-même. Et évidemment, enfin, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Vous savez que c'est le moyen de nous récompenser, de nous rémunérer pour tout ce travail qu'on fait pour écumer toute l'actu tech, vous l'expliquer et vous faire, j'espère, passer un bon moment. Si vous, vous êtes en train de vous balader, vous pouvez le faire directement depuis votre téléphone. Hein, ça fonctionne très bien, patreon.com/rdvtech. Ou alors, quand vous rentrez chez vous, à la maison, et que vous mettez les clés dans le petit bol, vous entendez le cling des clés qui tombent dans le bol, et là vous dites « Oh, faut pas que j'oublie Patrick !» Et là vous vous jetez sur votre ordinateur, votre femme, votre chien ne comprennent pas ce qui se passe, vous tapez frénétiquement patreon.com/rdvtech, et vous regardez s'il y a un niveau de récompense qui pourrait vous intéresser, sans oublier que dans une dizaine de jours, le niveau 2 va disparaître. Donc si vous êtes au niveau 1 ou si vous abonnez, ben, n'hésitez pas à regarder ce que ça offre également. Je vous remercie. Oui, on dit cling dans la chatroom, c'est ça. Ah, un jour, vous m'entendez comme ça, vous qui m'écoutez, vous dites « Oh, il est marrant Patrick avec son cling ». Mais un jour, ça va vous rentrer dans la tête, vous allez rentrer chez vous, vous allez vous rendre compte que, processus complètement pavlovien, vous allez le faire et vous allez m'envoyer un tweet en disant « Oh, mais je comprends pas ce qui s'est passé, maintenant je suis patriote ». Et ce qui sauve tout ça, c'est que vous direz « Mais je suis quand même très content d'être patriote. » Donc, tout va bien. Tout ça est pour le bien de la production
de l'humanité.
J'ai failli le dire, mais je me suis dit « C'est peut-être un petit peu ambitieux. » Bon, allez, on vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.